Bonjour à tous et à toutes, merci de nous rejoindre dans La Chose Commune, l'émission de Studio F qui parle d'environnement. Il nous a semblé important au sortir de cet été à Studio F d'aborder un sujet qui peut sembler anecdotique. On a cette vision des moulins qui est un peu patrimoniale, touristique et que l'on peut croiser en balade. On a voulu creuser un petit peu ce sujet, savoir ce que ces vieilles roues à eau avaient encore à faire dans notre environnement et à quoi elles pouvaient bien encore servir. On a deux invités qui vont pouvoir nous dire tout ce à quoi ça sert encore, et ça sert, j'imagine, encore à beaucoup de choses. Je suis en compagnie d'Armand Villa et d'Annie Combel, respectivement président et secrétaire de l'association de sauvegarde des moulins à eau du Loir-et-Cher. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
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 Est-ce que vous pouvez présenter l'association et son rôle ?
Oui, c'est une association dite de sauvegarde des moulins. Mais la définition de sauvegarde, ça va bien au-delà du maintien du patrimoine, de l'entretien, des conseils que entre propriétaires de moulins, on peut échanger sur la gestion, sur la réparation, sur l'entretien, etc. Aujourd'hui, on est confronté à un autre débat, c'est celui de la continuité, de la restauration de la continuité écologique.
On va y revenir longuement dans cette émission.
Qui pose effectivement un débat de sauvegarde des moulins, non plus au sens patrimonial, mais nous sommes là dans l'émission La Chose Commune. L'eau est un bien commun et les moulins participent à la gestion de ce bien commun qui devrait être géré par un maximum de gens, parce que le bien commun de l'eau concerne tout le monde, toutes les catégories.
Vous avez donc l'ASME 41 est une déclinaison locale d'une fédération nationale. Quelle est la situation plutôt locale par rapport à la situation nationale ? Est-ce que le Loir-et-Cher est plus ou moins bien doté en moulins ? Est-ce que la plupart servent encore ? Enfin voilà, est-ce que vous pouvez nous dessiner un petit peu une cartographie des moulins du département ?
Je pense que le Loir-et-Cher est assez bien doté en moulins. Dans notre petite région, Armand et moi, donc on est sur deux affluents du Cher, et sur 15 km, il y a 12 moulins. Donc c'est quand même assez significatif,
c'est
un beau chiffre. En termes de moulins encore en activité, je pense qu'il y en a quand même assez peu.
Dans le Loir-et-Cher, il y en a au moins un.
Il y en a au moins un, c'est ça.
C'est le moulin des 4 roues à Romontin.
D'accord, voilà, qui fait encore de la farine, effectivement.
Oui. Ça marche. Voilà. Et par rapport à la situation nationale, est-ce que vous avez un point de comparaison ?
Pas vraiment. Écoutez, vous savez, les moulins, on peut estimer à peu près le nombre d'ouvrages à 50 000 à peu près.
D'accord.
En France.
Okay. Hein,
les moulins ont joué un rôle considérable
bien
dans
sûr.
L'histoire de notre pays. Mmh. Partout où il y avait de l'eau qui coulait, il y avait un moulin.
Quoi, hein.
Donc il y en a énormément. Tous ne sont pas en état. Tous ne sont pas habitables, mais il y a encore énormément de moulins, de seuils de moulins et de sur les rivières de France.
Alors on a évidemment, comme je le disais en introduction, une vision peut-être un petit peu daté des moulins. C'est des jolis édifices quand on est en balade. Il y a évidemment une utilité patrimoniale, une utilité touristique. Est-ce que les moulins ont encore une utilité économique ? Ma question, en gros, c'est à quoi servent encore les moulins en 2022 ?
Alors,
je suis taquin, hein, je m'excuse.
Oui, mais je pense qu'ils ont une utilité, en tout cas pour le futur. En ce qui me concerne, j'ai lancé il y a quelques mois une étude pour savoir si mon moulin pouvait être équipé d'une micro-centrale hydraulique, ce qui est le cas. Donc, je vais poursuivre.
On va revenir aussi sur l'hydroélectricité, évidemment.
Exactement. Mais c'est la grande utilité actuelle et future. Hein. Je ne sais pas si en termes de moudre de la farine ou des choses comme ça, il y a encore beaucoup de
bien sûr, ouais.
De choses intéressantes, ouais. Mais en tout cas pour l'hydroélectricité.
De production aussi. D'énergie.
Voilà, exactement.
Puis il y a une autre utilité importante, me semble-t-il, c'est que les moulins participent à la beauté des paysages et donc à tout ce qui peut tourner autour du tourisme. Nous avons eu à l'occasion de la restauration de la continuité écologique, nous avons fait une vidéo qui montre la beauté des paysages et ces paysages sont liés au moulin. Il n'y a pas qu'une valeur patrimoniale. Il y a aussi intrinsèquement un débat d'environnement, de gestion de l'eau, de gestion de la faune, de la flore, et pas uniquement aquatique, y compris tout autour des moulins. Donc, il faudrait prendre la peine d'inventorier l'ensemble de ces questions pour effectivement déterminer quelle est la nature réelle et les objectifs réels que l'on peut donner aujourd'hui encore aux moulins, compte tenu de ce que sont les activités économiques, les activités touristiques dans un département comme le nôtre.
Absolument.
En plus de l'hydroélectricité.
Voilà, exactement. Il faut prendre vraiment le problème dans son ensemble. Il y a une dimension économique, il y a une dimension sociale, il y a une dimension effectivement environnementale, mais aussi patrimoniale, esthétique, tout ça. Enfin, il ne faut pas voir un seul aspect dans les moulins.
Et donc cette association de défense, de sauvegarde pardon, des moulins à eau, et notamment au Loir-et-Cher, c'est des questions qui traversent l'association avec j'imagine des nombreux partenaires. Quels sont les partenaires ou les institutions principales avec lesquelles vous êtes en lien?
Il y en a un certain nombre, ouais. Effectivement.
Il y en a beaucoup, hein. Il y a le département, il y a la région, il y a les syndicats de rivière, il y a les mairies. Alors, partenaires, quelquefois très conflictuels,
ouais.
Parce que on est au cœur des problèmes écologiques liés à l'eau. Et donc, selon la vision que l'on a de ces questions, on est pour ou contre le moulin, ou son existence, ou son seuil. Et puis il y a une autre idée qui commence à prendre l'importance et qui est extrêmement dangereuse. C'est qu'en gros, on nous dit, les moulins, lorsqu'ils étaient entretenus, ça fonctionnait, c'était bien. Aujourd'hui, ils sont moins entretenus, ils sont vieux, on n'en veut plus. Il faut les débarrasser, il faut s'en débarrasser. Comment dire, il y a une valeur historique. On ne peut pas tirer un trait de plume sur l'histoire d'une région, d'un département, d'un Absolument. Village, d'un pays. On ne peut pas. Il faut en tenir compte. Il faut savoir valoriser ces valeurs historiques. Et les moulins en font partie. Les moulins en font partie. Chez nous, Annie disait, ils ont fonctionné jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale.
Ah oui. Oui.
Donc,
jusqu'aux années 50 à peu près.
Voilà, ouais. Ils avaient une valeur sociale, une valeur économique réelle. Pas tous, mais non, pas tous fonctionnaient, mais certains ont fonctionné. Ils ont joué un rôle important pendant la guerre de 14-18, ils ont joué un rôle important pendant la guerre de 39-45. Ouais. Ils ont joué des
Bien
rôles
sûr.
Économiques, sociaux et historiques.
Ouais.
Et ça, on ne peut pas traiter ça comme ça, par-dessus la jambe, en disant « bon, c'est plus d'actualité ». Non, c'est toujours d'actualité.
On va plonger dans l'aspect qui nous intéresse pour cette émission, qui est effectivement donc le rôle environnemental et écologique des moulins. Donc si je parle de régulation de l'eau, de la régulation de la faune, vous en parliez, Armand, comment justement les moulins contribuent à cette régulation, à ce travail environnemental autour de l'eau et de la faune qui dépend des cours d'eau et des rivières?
Ouais, alors, on peut citer vraiment ce qui se passe aujourd'hui. Cette année a été évidemment catastrophique pour l'eau. On voit bien que toutes les rivières, toutes les rues, voilà, il y a des assecs. Les niveaux descendent drastiquement à partir, grosso modo, du mois d'avril. Parce que j'ai fait une petite étude là pour l'association sur justement les rivières du Loir-et-Cher. Toutes ont un débit qui jusqu'au mois d'avril, alors suivant évidemment les rivières, mais grosso modo en avril tout le monde est à peu près comme en 2020, comme en 2021 et dans les années passées, et après ça décroche drastiquement. Et donc ça a paru dans les journaux à plusieurs reprises, des quantités de poissons morts parce que justement les rivières sont, enfin, ou les ruisseaux sont à sec, où ce qu'il en reste est terriblement chaud, donc les pauvres poissons ne peuvent pas survivre. En ce qui me concerne, je n'ai pas eu un seul poisson mort de la saison. Donc, parce que y a un étang qui régule, parce que, etc., et qu'il y a une retenue d'eau. Donc, on imagine bien que les moulins ont quand même un rôle à jouer sur cet équilibre. Finalement.
Puisque je suis un novice sur la question, mais vous êtes là pour m'éclairer. Les moulins sont principalement, j'imagine, ont principalement été établis où on a construit des retenues d'eau pour les moulins. Comment ça se fait? Les deux sont interdépendants?
Alors, les deux, oui,
finalement
parce
pas
que,
trop.
En fait, en tout cas, en ce qui me concerne, l'étang a été construit en faisant une dérivation, une deuxième dérivation de la rivière. La première passe sous la maison et donc sous le moulin. Mm-hmm. Et puis, un des derniers meuniers du 18e siècle a trouvé que le débit était justement pas suffisamment régulier et a demandé l'autorisation d'avoir un étang de régulation. Donc j'ai les deux autour de mon moulin, ce qui, bon, alors déjà esthétiquement, c'est superbe, et je ne suis pas la seule à le dire, puisque même la sous-préfète qui s'est déplacée a trouvé que c'était très beau, donc voilà, et la régulation est importante, c'est sûr.
Vous aviez deux types de construction. Vous aviez ce que vient de dire Annie, c'est-à-dire des moulins qui étaient construits au fil de l'eau. L'eau circulait soit dessous, soit à côté, tout près. Mmh. Et puis vous avez des moulins qui ont été construits sur des biefs dérivés, ce qu'on appelle. C'est-à-dire qu'il y avait une construction de vannes, de systèmes, de seuils qui permettaient de bloquer l'eau et de faire retourner la roue, de dévier l'eau et de faire retourner la roue du moulin. Il y a quelques moulins qui sont au fil de l'eau, c'est-à-dire posés sur l'eau carrément, sur ce qui concerne les anguilleuses et le bavet, et d'autres, comme la grande majorité, sont sur des seuils dérivés. Mais dans tous les cas, ils ont, et Annie l'a souligné, une fonction de retenue d'eau. Voilà. Et c'est bien le problème aujourd'hui, parce que on a constaté, il y a eu 18 à sec de rivières dans le Loir-et-Cher au 23 août 2022. 18 à sec. C'est-à-dire qu'on a des rivières qui n'ont plus d'eau. La conséquence, c'est un désastre écologique. Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de biodiversité. Il n'y a plus de poissons, il n'y a plus de biodiversité. Et les moulins, lorsqu'ils sont en état, les seuils sont maintenus, lorsqu'ils sont là pour retenir de l'eau et peuvent permettre d'avoir des injections d'eau et des délestages. Moi, j'habite sur le bras usinier d'un moulin. Il y a encore de l'eau parce que les vannes sont fermées. Si les vannes n'avaient pas existé, n'étaient plus là, il n'y aurait plus d'eau. Mmh. Ce qui veut dire qu'il n'y aurait plus de biodiversité.
Et donc, on veut ouvrir ces vannes.
Alors, le débat, il est très complexe.
Parlons du débat, ouais.
Et il est très complexe.
C'est ce qui m'a interpellé quand j'ai décidé de m'intéresser à ce sujet.
C'est un débat très complexe. Il y a une conception qui prédomine actuellement, qui consiste à dire qu'il faut retourner à une rivière naturelle.
Qu'est-ce qu'une rivière naturelle?
C'est une bonne question, parce que la définition.
Alors certes,
est
on fait des retenues entre guillemets artificielles, les moulins, les plans d'eau, etc.
Elle traverse donc.
Mais l'eau circule toujours.
Voilà.
Ça reste naturel, ça reste un petit.
C'est la question. Parce que le castor est apparu 6 millions d'années avant nous. Et le castor construisait des barrages. Et donc, il y a toujours eu des barrages sur les rivières, y compris lorsque l'homme n'existait pas, parce qu'il y avait le castor, ou parce qu'il y avait tout simplement des chutes d'arbres, il y avait des embâcles, il y avait des chutes de terrain, enfin bon, il y avait tout ce que vous pouvez trouver.
La nature charrie et travaille.
Et donc, il y a toujours eu des rivières. Les rivières ont toujours été soit impactées par des barrages, soit par des dérivations, etc. Donc, c'est quoi une rivière naturelle? Et est-ce qu'on peut considérer que lorsque la main de l'homme s'occupe de quelque chose, ce n'est plus naturel? Et au nom de quoi il faudrait que ce soit les hommes qui déterminent que ce que l'homme a fait n'est pas naturel et fasse autre chose? C'est un vrai débat. C'est une vraie question. Nous disons que nos rivières sont naturelles.
Exactement.
Il y a des barrages, il y a des seuils, il y a des moulins.
Ça a fonctionné comme ça depuis des siècles.
Il date du 11e siècle, nos moulins.
Ouais.
Et donc, pour prolonger le raisonnement, c'est si on ouvre ces vannes et ces retenues, l'eau circule, il n'y a plus...
Bah, on lutte contre les assecs. L'eau va directement à la mer, donc on ne la retient plus. Hein.
Oui, mais du coup, quel est le rôle des moulins dans ce... Et pourquoi notamment votre association s'oppose à la libération de ces retenues?
Mais, c'est-à-dire, il ne s'agit pas d'une libération, en fait. Hein. Il s'agit de... Si vous supprimez tous les seuils de moulins, tous les barrages, l'eau va directement à l'océan.
Ouais. Exactement.
Voilà. Et est-ce que l'océan a besoin d'eau? C'est une vraie question aussi.
Absolument.
Voilà, c'est une vraie question.
C'est la gestion de l'eau en tant que ressource.
Donc, le débat est là. C'est le débat de la gestion de l'eau. Quelle politique de gestion de l'eau? Est-ce qu'on doit, lorsqu'il pleut, se contenter de laisser l'eau couler vers l'océan? Ou bien faut-il, compte tenu de l'expérience que nous vivons, la sécheresse d'aujourd'hui, les assecs dont, le nombre d'assecs dont je vous parlais, est le même que celui de 2019. Mmh. Ce qui veut bien dire que d'année en année, nous allons trouver ce type de climat, ce type de conséquences des dérèglements climatiques, et donc nous allons avoir besoin d'eau. Et dans tous les pays du monde, lorsqu'on n'a pas d'eau, et notamment dans les pays qui n'en ont pas beaucoup, lorsqu'il en tombe, ils la gardent. Et nous, on la laisse s'écouler à la mer.
Exactement.
C'est une vraie question. L'agriculture a besoin d'eau. La population a besoin d'eau. Vous avez Blois, il y a eu des arrêtés sécheresse où la question de l'eau dans Blois se posait. On traversait le Cher quasiment à pied la Loire quasiment à pied. Donc nous avons besoin, à un moment donné, pour maintenir une biodiversité, réellement la maintenir. À ce que les moulins, alors ils ont leur petite part, on dit pas que tout va passer par les moulins, mais c'est un petit élément dans un ensemble.
Exactement.
Et on ne peut pas supprimer ce petit élément, sauf à créer des déséquilibres. Et c'est ce qu'on est en train de nous proposer. La conception de la rivière sauvage, moi, je veux bien, mais vous savez, le film, la rivière sans retour, le radeau, c'est pas la conception française de la gestion de l'eau. Et là, ma foi, c'est un vrai débat. Nous disons, il faut gérer l'eau, il faut maintenir les seuils, il faut laisser les seuils en place, les améliorer, permettre l'ouverture des vannes, permettre une gestion coordonnée des vannes, permettre que ces moulins jouent ce rôle-là, plus celui qu'ils peuvent jouer en matière d'hydroélectricité. Et on en a besoin aussi, parce que c'est de l'électricité, de l'énergie décarbonée. Hein. Donc on est bien dans des temps écologiques sur cette affaire-là, et ne pas les détruire. Parce que les détruire, eh bien écoutez, moi si on détruit les vannes du moulin de mon voisin, moi j'ai plus d'eau. Les sols vont se craqueler.
Voilà, il y a aussi ça.
Les maisons vont s'effondrer, parce que certaines sont construites sur de l'argile, alimentées et maintenues en état par l'eau. Par l'eau.
Bah, ne serait-ce que le château de Chenonceau. Hein.
Chenonceau
a besoin de l'eau du Cher.
La biodiversité va disparaître. Les poissons, vous savez, un poisson, il faut de l'eau. Hein. S'il n'y a plus d'eau, il n'y a pas de poisson. On pourrait essayer de maintenir l'anguille vivante, mais s'il n'y a pas d'eau, il n'y aura plus d'anguille. Hein. Non, mais écoutez, il y a des évidences comme ça. Pour qu'il y ait des poissons, il faut qu'il y ait de l'eau. Et à côté des poissons, nous avons une faune, une flore... Qui est lié à l'eau.
Qui est lié, oui.
Bien sûr. Voilà.
On parlait de les détruire ou d'en reconstruire. Faut-il, donc il y a quelques dizaines de moulins existants, faut-il en construire d'autres ? Est-ce que ce serait utile de reconstruire des moulins qui seraient, et j'arrive à ma question sur l'hydroélectricité, comme vous le disiez Annie, ou alors faut-il équiper les moulins existants de production, enfin de les mettre en capacité de produire de l'hydroélectricité ?
Bah, je pense que déjà, maintenir ce qui existe, ça serait déjà un grand, grand pas, puisqu'il y a eu des destructions, clairement. Pas trop dans notre département, mais dans l'Indre beaucoup, et même dans le département du Cher. Il y a eu pas mal de destructions de seuils. Et l'hydroélectricité, c'est un deuxième sujet, parce que effectivement, pour qu'une turbine puisse tourner, il faut quand même qu'il y ait un certain débit. Donc,
ma question, un peu taquine. Est-ce que ça vaut le coup d'équiper des moulins en hydroélectricité, en production, si
après,
les cours d'eau sont
y a
pas assez puissants?
Une étude économique à faire, parce que en fonction du débit, donc vous aurez une puissance qui vous sera reconnue, et est-ce qu'elle sera suffisante pour votre autoconsommation, pour la consommation éventuellement de vos voisins, etc. Bon, tout ça c'est à étudier, mais oui, il y a beaucoup de moulins qui sont capables d'avoir une micro-centrale
et qui sont capables de produire,
et qui sont capables de produire au moins pour leur autoconsommation, même s'ils ne produisent pas toute l'année. Alors c'est là que ça pose aussi d'autres questions, parce que par exemple, en ce qui me concerne, l'étude a montré que je pourrais produire à peu près la moitié du temps de façon de vraiment efficace. Voilà. Et donc, mais je produirai même plus que ce dont j'ai besoin. Donc, il faut le stocker. Donc, ça veut dire
toujours
pile.
La question du stockage.
Donc, stockage. Donc, effectivement, c'est pas forcément très écologique dans ce cas-là. Mais il y a d'autres solutions. C'est de revendre la totalité et de rester quand même connecté au réseau. Ça se fait très bien. Il y a plusieurs propriétaires qui ont choisi cette solution.
Votre association, elle accompagne les propriétaires de moulins dans ces études?
Alors,
dans les démarches?
Mais il y a d'autres associations. Par exemple, il y a Force Hydrocentre qui est un GIE associatif et qui fait des études tout à fait solides et étayées.
Voilà. D'accord.
Puis il y en a d'autres, hein. On connaît celle-là, mais il y en a certainement d'autres.
En tout cas, vous défendez l'idée de moulins qui seraient des producteurs d'énergie.
Tout à fait.
Ouais.
C'est quand même de l'énergie verte. Ouais. En plus, mine de rien, ça a une certaine vertu, c'est que l'eau qui ressort de la turbine, elle est plus oxygénée que.
Ouais. Ah oui.
Voilà.
Oui.
Donc ça peut aussi être tout à fait bénéfique.
Très bien.
Puis on peut envisager. Parce qu'on peut envisager des mixages solaires, nous aurons besoin immédiatement
d'énergie
décarbonée. Ouais. Il faut étudier toutes les possibilités et ne pas se priver de possibilités qui existent. Et là, ils sont en train de casser un outil. Quoi.
Et il y a une meilleure acceptation de la population d'une micro-centrale par rapport
Absolument.
À l'éolienne.
Oui,
clairement.
Voilà.
Les moulins sont mieux dans le paysage qu'une éolienne pour les habitants.
Oui, surtout dans le pays des châteaux, des éoliennes, c'est problématique.
On sait que les débats que ça soulève. J'ai lu ça en préparant l'émission. Est-ce que vous pouvez me dire ce qu'est le droit d'eau?
Alors, le droit d'eau, parce que moi j'ai fait reconnaître mon droit d'eau effectivement il y a quelques mois. D'abord, c'est un prérequis pour pouvoir installer une microcentrale.
D'accord.
C'est-à-dire qu'il faut que la DDT reconnaisse que vous avez une certaine puissance potentielle d'eau.
Que le cours d'eau qui passe sous votre moulin soit suffisamment...
Exactement.
Il y a suffisamment de débit
Exactement.
Pour produire de l'énergie.
Et donc ce droit d'eau, en fait, il existait pour les moulins dans le temps.
Quand ça moulait du blé.
Voilà. Ouais. Alors en général, c'était déclaratif, ce qui fait que les meuniers, comme ils étaient taxés aussi sur leur puissance, ils faisaient des déclarations qui étaient un peu en dessous de la réalité. Et donc statistiquement, si on ne fait pas de mesure, on peut se retrouver... mesure actuelle, on peut se retrouver avec un droit d'eau qui est inférieur à ce qui est effectivement acceptable. Voilà, mais ça fait partie, en fait, pour tous les moulins en plus qui existaient avant la Révolution, le droit d'eau est de facto, il existe, c'était reconnu par le roi, en fait. Et donc, c'est juste de faire un papier disant, ben oui, ce moulin, il existait, il existe toujours, il a toujours cette puissance ce potentiel de production énergétique.
Si vous voulez, d'un point de vue juridique, le droit d'eau, c'est le droit d'utiliser la force motrice de l'eau.
D'accord.
Voilà. Okay. Et donc, la référence, Annie l'a souligné, c'est la carte de Cassini, 1756. Tous les moulins qui étaient portés sur cette carte étaient des moulins reconnus en titre parce qu'ils avaient eu le droit d'eau. Le droit d'utiliser la force motrice de l'eau.
Voilà. Pour travailler.
N'importe qui ne peut pas l'utiliser.
Voilà. Et personne ne peut contester ce droit-là.
Absolument.
Il est inaliénable. Et donc, vous avez le droit d'utiliser cette force motrice. Voilà, c'est ça, exactement.
C'est ça,
à la fois juridiquement et techniquement.
Exactement.
Voilà. La définition du droit d'eau.
Et normalement, quand vous... Enfin, dans les actes notariés, ça aurait dû suivre. Mais bon, ça n'a pas forcément suivi et les notaires sont pas toujours très regardant parce que ça appartient en fait au moulin, donc c'est une valeur patrimoniale aussi.
Et donc ça, c'est un outil pour défendre l'idée d'un moulin producteur d'énergie.
Absolument.
Voilà, les moulins qui disposent d'un droit d'eau.
C'est un prérequis. On peut pas demander
l'autorisation
d'avoir une parce qu'il faut demander une autorisation.
Ouais.
Hein, c'est pas.
Bien sûr, j'imagine.
C'est clair. On ne peut pas demander cette autorisation si on n'a pas le droit d'eau reconnu. Voilà. Donc c'est vraiment le prérequis.
Et nos moulins, non, ils datent du 11e siècle pour certains. Donc,
non, forcément, oui. 1700, la carte de 1700. Les moulins du 11e siècle en disposent.
C'est la carte qui constatait.
Voilà,
qui
mais il y en a qui existaient bien avant.
Ils remontent au 11e siècle,
bien sûr. Oui, puisque celui que j'habite, là, il dépendait de l'abbaye de Pont-le-Voix, qui est du 11e siècle. Donc, voilà, il existe depuis très, très, très longtemps.
Très bien. Est-ce que vous avez des choses à préciser, des sujets que vous aimeriez évoquer sur cette antenne?
Alors moi, ce que j'aimerais surtout dire, c'est que toutes les études, tous les manifestes qu'on voit sur ces sujets-là n'étudient pas la problématique dans son ensemble. Mmh. C'est toujours un petit bout de la lorgnette. Et je pense que sur ces sujets-là, il faut avoir ce qu'on appelle une approche systémique, c'est-à-dire de voir 360 degrés les différentes composantes avant de prendre une décision quelconque. Et là, en permanence, on assiste à des manifestes qui sont plus de la doctrine. Il faut tout casser, laisser les poissons aller comme ils veulent, mais ils vont déjà comme ils veulent. Enfin, voilà, ça c'est un point important, je pense, cette approche globale et non pas petit bout par petit bout.
Oui, moi ce que je voudrais dire aussi, c'est la chose suivante. Si les seuils de moulins étaient un obstacle à la reproduction des poissons migrateurs, comment se fait-il que nous en ayons encore des poissons migrateurs? Parce que, je vous dis, depuis le 11e siècle à aujourd'hui, il a bien fallu que ces poissons migrateurs franchissent ces obstacles-là, et ils l'ont fait. Ou alors, il y a d'autres questions à étudier quant à la reproduction des poissons migrateurs. C'est peut-être pas tout à fait, parce que, bon, vous avez certains poissons migrateurs dont on ne connaît pas encore la totalité du cycle de vie, leur fonctionnement, etc. Il y a des choses à regarder, notamment sur les anguilles. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. La seconde, on ne peut pas taxer les moulins de tous les maux, de tous les désavantages écologiques, sans prendre en compte, par exemple, les conséquences de la pollution médicamenteuse, qui font que certains poissons, comme les anguilles, puisqu'on revient toujours à ça, sont à 70% malades. Donc, ces pauvres anguilles, elles arrivent dans un état, effectivement, il faut passer le cap du silure, il faut passer le cap du braconnage. Cette pauvre civelle, lorsqu'elle arrive à la forme d'anguille, sa première étape, c'est vraiment Rambo, quoi. Ouais. C'est vraiment l'anguille qui a survécu et franchi tous les obstacles, quoi. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Donc, il y a tout ça à voir. C'est ce que disait Annie. Il faut prendre l'ensemble du problème. Il n'y a pas les moulins et de l'eau qui, parce que le coule naturel coule, qu'elle n'a plus d'obstacle, devient pure. C'est pas vrai.
C'est pas vrai.
Parce qu'au plus le débit, l'étiage est bas, plus la concentration de polluants
est forte. Bien sûr. Et puis, médicaments, mais aussi nitrates.
Les nitrates.
Aujourd'hui, toutes nos rivières, il y a jusqu'à 0,05 grammes par litre de nitrates. Enfin, c'est énorme. C'est énorme. Donc, ça les tue plus que les seuils des moulins, hein, ça c'est sûr. Vraiment, on les tuait. Mais...
Et on sait, par exemple, à propos des nitrates, que les seuils de moulins qui maintiennent de l'eau, qui gardent de l'eau, ont des effets de dénitrification. Mais non, on ne tient compte de rien. C'est-à-dire, on a ce que disait Annie, il y a un postulat de base.
On parlait de l'oxygénisation tout à l'heure.
Il y a un postulat de base. Il faut une rivière sauvage, il faut renaturer. Mais on remonte à quelle époque? Au Big Bang, au néolithique?
Oui, au néolithique, sans doute.
Je ne sais pas. Non, parce que c'est un vrai débat. On remonte 1000 ans en arrière.
Bien sûr.
Il y a encore un aspect que je voudrais souligner. C'est que, on nous dit qu'il faut travailler pour 2050. Oui, d'accord. Mais 2050, c'est aujourd'hui. Hein. On vient de le vivre. C'est pas dans 30 ans. C'est aujourd'hui. Et quand bien même nous arriverions à créer les conditions d'une baisse du taux de gaz à effet de serre, les effets se continueront sur à peu près un siècle. Donc c'est aujourd'hui qu'il faut prendre une série de mesures importantes pour préserver une faune d'eau douce. Les océans chauffent, sont de plus en plus chauds, une augmentation en gros de 2% de 2 degrés de la chaleur des océans. Une anguille se reproduit entre 5 et 8 degrés, et 12 degrés, disons. On en est à plus de 2 degrés. 2 degrés. c'est de plus en plus difficile. Ça fait 50% de temps de moins pour la ponte et la reproduction. Ouais. Si on ne prend pas des mesures aujourd'hui, en 2050, il ne restera pas grand-chose. Et on n'aura pas atteint les objectifs. C'est donc aujourd'hui, c'est sur le temps d'aujourd'hui qu'il faut travailler et sur les mesures d'aujourd'hui.
Voilà. Alors, il y a aussi un autre élément. Je pense que là, il est plus économique ou en tout cas lié à l'économie. Il y a quand même des rivières de différentes tailles. C'est-à-dire qu'on peut comprendre qu'on travaille sur la Loire, on peut comprendre qu'on travaille sur le Cher. Bon, mais qu'on travaille et qu'on impose des choses à un coût absolument faramineux sur des petits ruisseaux, qui sont certes des affluents de ces grandes rivières, mais c'est quand même des petits ruisseaux, le bon sens est un peu choqué, finalement. Et quand vous voyez les coûts, par exemple, la rivière de contournement qui a été faite à Chissay pour le Cher, bon, qui a coûté 800 000 euros, je crois, et qui sert un mois par an. Il faut savoir raison garder, peut-être. On a peut-être mieux à faire de ces 800 000 euros que d'aller faire une rivière de contournement sur le Cher.
Très bien.
Donc on ne sait pas si le poisson l'emprunte.
Oui, en plus, bien évidemment.
Non, mais écoutez, voilà. les gars qui l'ont fait me l'ont dit, on ne sait pas, on sait pas combien de poissons empruntent cette rivière.
Exactement.
Pas ce problème, quand même. Ouais.
Très bien. Eh bien, merci d'avoir échangé sur le sujet des moulins. On espère avoir éclairé nos auditeurs et nos auditrices sur ce sujet. Merci Armand Villard et Annie Combel, donc de la SME 41, d'être venus dans le studio de Studio ZEF pour échanger sur le sujet. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission en podcast. On se retrouve.
C'est nous qui vous remercions.
Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de La Chose Commune. Salut à tous.